Chapitre 12. Vers les midi, Valérie et Lisbeth causaient dans la magnifique chambre à coucher, où cette dangereuse parisienne donnait à sa toilette ces dernières façons qu'une femme tient à donner elle-même. Les verrous mis, les portières tirées, Valérie raconta dans leurs moindres détails tous les événements de la soirée, de la nuit et de la matinée. « Es-tu contente, mon bijou ? » dit-elle à Lisbeth en terminant. « Que dois-je être un jour, Madame Crevel ou Madame Montès ? Quel est ton avis ?»«
Crevel n'a pas plus de 10 ans à vivre, libertin comme il est, » répondit Lisbeth. « Et Montès est jeune. Crevel te laissera 30 000 francs de rente environ. Que Montès attende ? Il sera bien assez heureux en restant le Benjamin. Ainsi, vers 33 ans, tu peux, ma chère enfant, en te conservant belle, épouser ton Brésilien. » Et jouer un grand rôle avec 60 000 francs de rente à toi, surtout protégé par une maréchale.
Oui, mais Montès est brésilien, il n'arrivera jamais à rien, fit observer Valérie.
Nous sommes, dit Lisbeth, dans un temps de chemin de fer, où les étrangers finissent en France par occuper de grandes positions.
Nous verrons, reprit Valérie, quand Marneffe sera mort, et il n'a pas longtemps à souffrir.
« Ces maladies qui lui reviennent, dit Lisbeth, sont comme les remords du physique. Allons, je vais chez Hortense. »«
Eh bien, va, mon ange, répondit Valérie, et amène-moi mon artiste. En 3 ans, n'avoir pas encore gagné seulement 1 pouce de terrain, c'est notre honte à toutes deux. Venceslas et Henri, voilà mes 2 seules passions. L'un, c'est l'amour, l'autre, c'est la fantaisie.
Es-tu belle ce matin ? Dit Lisbeth en venant prendre Valérie par la taille et la baisant au front. « Je jouis de tous tes plaisirs, de ta fortune, de ta toilette. Je n'ai vécu que depuis le jour où nous nous sommes faites sœurs. »«
Attends, ma tigresse, » dit en riant Valérie, « ton châle est de travers. Tu ne sais pas encore porter un châle, malgré mes leçons, au bout de 3 ans. Et tu veux être madame la maréchale Hulot. »
Chaussée de brodequins en prunelle, de bas de soie gris, armée d'une robe en magnifique levantine, les cheveux en bandeau sous une très jolie capote en velours noir doublée de satin jaune, Lisbeth alla rue Saint-Dominique par le boulevard des Invalides, en se demandant si le découragement d'Hortense lui livrerait enfin cette âme forte, et si l'inconstance sarmate, prise à l'heure où tout est possible à ses caractères, ferait fléchir l'amour de Venceslas. Hortense et Venceslas occupaient le rez-de-chaussée d'une maison située à l'endroit où la rue Saint-Dominique aboutit à l'esplanade des Invalides. Cet appartement, jadis en harmonie avec la lune de miel, offrait en ce moment un aspect à moitié frais, à moitié fané, qu'il faudrait appeler l'automne du mobilier. Les nouveaux mariés sont gâcheurs, ils gaspillent sans le savoir, sans le vouloir, les choses autour d'eux, comme ils abusent de l'amour. Pleins d'eux-mêmes, ils se soucient peu de l'avenir qui, plus tard, préoccupe la mère de famille. Lisbeth trouva sa cousine Hortense ayant achevé d'habiller elle-même un petit Venceslas qui venait d'être exporté dans le jardin.
« Bonjour, Bette !» dit Hortense qui vint ouvrir elle-même la porte à sa cousine.
La cuisinière était allée au marché, la femme de chambre, à la fois bonne d'enfant, faisait un savonnage.
« Bonjour, ma chère enfant, » répondit Lisbeth en embrassant Hortense.
« Eh bien, » lui dit-elle à l'oreille, « Venceslas est-il à son atelier ?»«
Non, il cause avec Stidman et Chanor dans le salon. »«
Pourrions-nous être seuls ?» demanda Lisbeth.
« Viens dans ma chambre. »
Cette chambre, tendue de perse à fleurs roses et à feuillage vert sur un fond blanc, sans cesse frappée par le soleil ainsi que le tapis, avait passé. Depuis longtemps, les rideaux n'avaient pas été blanchis. On y sentait la fumée du cigare de Venceslas, qui, devenu grand seigneur de l'art et né gentilhomme, déposait les cendres du tabac sur les bras des fauteuils, sur les plus jolies choses, en homme aimé de qui l'on souffre tout, en homme riche qui ne prend pas de soins bourgeois.
« Eh bien, parlons de tes affaires, » demanda Lisbeth en voyant sa cousine muette dans le fauteuil où elle s'était plongée. « Mais qu'as-tu ? je te trouve palote, ma chère. »
Il a paru deux nouveaux articles où mon pauvre Venceslas s'est abîmé. Je les ai lus. Je les lui cache, car il se découragerait tout à fait. Le marbre du maréchal Montcornet est regardé comme tout à fait mauvais. On fait grâce aux bas-reliefs pour vanter avec une atroce perfidie le talent d'ornemaniste de Venceslas, et afin de donner plus de poids à cette opinion que l'art sévère nous est interdit. Steedman, supplié par moi de dire la vérité, m'a désespéré en m'avouant que son opinion à lui s'accordait avec celle de tous les artistes, des critiques et du public. « Si Venceslas, m'a-t-il dit, là, dans le jardin avant le déjeuner, n'expose pas, l'année prochaine, un chef-d'œuvre, il doit abandonner la grande sculpture et s'en tenir aux idylles, aux figurines, aux œuvres de bijouterie et de haute orfèvrerie. Cet arrêt m'a causé la plus vive peine, car Venceslas n'y voudra jamais souscrire. Il se sent, il a tant de belles idées. »
Ce n'est pas avec des idées qu'on paye ses fournisseurs, fit observer Lisbeth. Je me tuais à lui dire cela. C'est avec de l'argent. L'argent ne s'obtient que par des choses faites, et qui plaisent assez aux bourgeois pour être achetées. Quand il s'agit de vivre, il vaut mieux que le sculpteur ait sur son établi le modèle d'un flambeau, d'un garde-cendre, d'une table, qu'un groupe et qu'une statue, car tout le monde a besoin de cela, tandis que l'amateur de groupe et son argent se font attendre pendant des mois entiers.
Tu as raison, ma bonne Lisbeth. Dis-lui donc cela, moi je n'en ai pas le courage. D'ailleurs, comme il le disait à Steedman, il se remet à l'ornement, à la petite sculpture. Il faudra renoncer à l'Institut, aux grandes créations de l'art, et nous n'aurons plus les 300 000 francs de travaux que Versailles, la ville de Paris, le ministère, nous tenaient en réserve. Voilà ce que nous ôtent ces affreux articles, dictés par des concurrents qui voudraient hériter de nos commandes. Et ce n'est pas là ce que tu rêvais, pauvre petite chatte, dit Bette en baisant Hortense au front. Tu voulais un gentilhomme dominant l'art, à la tête des sculpteurs. Mais c'est de la poésie, vois-tu. Ce rêve exige 50 000 francs de rente, et vous n'en avez que 2 400, tant que je vivrai, 3 000 après ma mort. » Quelques larmes vinrent dans les yeux d'Hortense, et Bette les lapa du regard comme une chatte boit du lait. Voici l'histoire succincte de cette lune de miel, le récit n'en sera peut-être pas perdu pour les artistes. Le travail moral, la chasse dans les hautes régions de l'intelligence, est un des plus grands efforts de l'homme. Ce qui doit mériter la gloire dans l'art, car il faut comprendre sous ce mot toutes les créations de la pensée, c'est surtout le courage. Un courage dont le vulgaire ne se doute pas, et qui peut-être est expliqué pour la première fois ici. Poussé par la terrible pression de la misère, maintenu par Bette dans la situation de ses chevaux à qui l'on met des œillères pour les empêcher de voir à droite et à gauche du chemin, fouetté par cette dure fille, image de la nécessité, cette espèce de destin subalterne, Venceslas, né poète et rêveur, avait passé de la conception à l'exécution en franchissant, sans les mesurer, les abîmes qui séparent ces deux hémisphères de l'art. Penser, rêver, concevoir de belles œuvres est une occupation délicieuse. C'est fumer des cigares enchantés, c'est mener la vie de la courtisane occupée à sa fantaisie. L'œuvre apparaît alors dans la grâce de l'enfance, dans la joie folle de la génération, avec les couleurs embaumées de la fleur et les sucs rapides du fruit dégusté par avance. Telle est la conception et ses plaisirs. Celui qui peut dessiner son plan par la parole passe déjà pour un homme extraordinaire. Cette faculté, tous les artistes et les écrivains la possèdent. Mais produire, mais accoucher, mais élever laborieusement l'enfant, le coucher gorgé de lait tous les soirs, l'embrasser tous les matins avec le cœur inépuisé de la mère, le lécher sale, le vêtir 100 fois des plus belles jaquettes qu'il déchire incessamment, mais ne pas se rebuter des convulsions de cette folle vie et en faire le chef-d'œuvre animé qui parle à tous les regards en sculpture, à toutes les intelligences en littérature, à tous les souvenirs en peinture, à tous les cœurs en musique, c'est l'exécution et ses travaux. La main doit avancer à tout moment, prête à tout moment à obéir à la tête. Or, la tête n'a pas plus les dispositions créatrices à commandement que l'amour n'est continu. Cette habitude de la création, cet amour infatigable de la maternité qui fait la mère, ce chef-d'œuvre naturel si bien compris de Raphaël, enfin cette maternité cérébrale si difficile à conquérir, se perd avec une facilité prodigieuse. L'inspiration, c'est l'occasion du génie. Elle court non pas sur un rasoir, elle est dans les airs et s'envole avec la défiance des corbeaux. Elle n'a pas d'écharpe par où le poète la puisse prendre. Sa chevelure est une flamme. Elle se sauve comme ces beaux flamants blancs et roses, le désespoir des chasseurs. Aussi le travail est-il une lutte lassante que redoutent et que chérissent les belles et puissantes organisations qui souvent s'y brisent. Un grand poète de ce temps-ci disait en parlant de ce labeur effrayant « Je m'y mets avec désespoir et je le quitte avec chagrin. Que les ignorants le sachent, si l'artiste ne se précipite pas dans son œuvre, comme Curtius dans le gouffre, comme le soldat dans la redoute, sans réfléchir, et si dans ce cratère il ne travaille pas comme le mineur enfoui sous un éboulement, s'il contemple enfin les difficultés au lieu de les vaincre une à une, à l'exemple de ces amoureux des féeries, qui, pour obtenir leur princesse, combattaient des enchantements renaissants, l'œuvre reste inachevée. Elle périt au fond de l'atelier, où la production devient impossible, et l'artiste assiste au suicide de son talent. Rossini, ce génie frère de Raphaël, en offre un exemple frappant. Dans sa jeunesse indigente superposée à son âge mûr opulent. Telle est la raison de la récompense pareille, du pareil triomphe, du même laurier accordé aux grands poètes et aux grands généraux. Venceslas, nature rêveuse, avait dépensé tant d'énergie à produire, à s'instruire, à travailler sous la direction despotique de Lisbeth, que l'amour et le bonheur amenèrent une réaction. Le vrai caractère reparut. La paresse et la nonchalance, la mollesse du sarmate, revinrent occuper dans son âme les sillons complaisants d'où la verge du maître d'école les avait chassés. L'artiste, pendant les premiers mois, aima sa femme. Hortense et Venceslas se livrèrent aux adorables enfantillages de la passion légitime, heureuse, insensée. Hortense fut alors la première à dispenser Venceslas de tout travail, orgueilleuse de triompher ainsi de sa rivale, la sculpture. Les caresses d'une femme, d'ailleurs, font évanouir la muse et fléchir la féroce, la brutale fermeté du travailleur. 6 à 7 mois passèrent, les doigts du sculpteur désapprirent à tenir les bochoirs. Quand la nécessité de travailler se fit sentir, quand le prince de Wissembourg, président du comité de souscription, voulut voir la statue, Venceslas prononça le mot suprême des flâneurs « Je vais m'y mettre !» Et il berça sa chère Hortense de fallacieuses paroles, des magnifiques plans de l'artiste fumeur. Hortense redoubla d'amour pour son poète, elle entrevoyait une sublime statue du maréchal Montcornet. Montcornet devait être l'idéalisation de l'intrépidité, le type de la cavalerie, le courage à la Murat. Ah bah ! L'on devait, à l'aspect de cette statue, concevoir toutes les victoires de l'empereur. Et quelle exécution ! Le crayon était bien complaisant, il suivait la parole. En fait de statue, il vint un petit Venceslas ravissant. Dès qu'il s'agissait d'aller à l'atelier du gros caillou, manier la glaise et réaliser la maquette, Tantôt la pendule du prince exigeait la présence de Venceslas à l'atelier de Florent et de Chanor, où les figures se ciselaient. Tantôt le jour était gris et sombre, aujourd'hui des courses d'affaires, demain un dîner de famille, sans compter les malaises du talent et ceux du corps, et enfin les jours où l'on batifole avec une femme adorée. Le maréchal-prince de Wissembourg fut obligé de se fâcher pour obtenir le modèle et de dire qu'il reviendrait sur sa décision. Ce fut après 1000 reproches et force grosses paroles que le comité des souscripteurs put voir le plâtre. Chaque jour de travail, Steinbock revenait visiblement fatigué, se plaignant de ce labeur de maçon, de sa faiblesse physique. Durant cette première année, le ménage jouissait d'une certaine aisance. La comtesse Steinbock, folle de son mari, dans les joies de l'amour satisfait, maudissait le ministre de la guerre. Elle alla le voir et lui dit que les grandes œuvres ne se fabriquaient pas comme des canons et que l'État devait être, comme Louis XIV, François Ier et Léon X, aux ordres du génie. La pauvre Hortense, croyant tenir un Phidias dans ses bras, avait pour son Venceslas la lâcheté maternelle d'une femme qui pousse l'amour jusqu'à l'idolâtrie. « Ne te presse pas, » dit-elle à son mari. « Tout notre avenir est dans cette statue. Prends ton temps, fais un chef-d'œuvre. » Elle venait à l'atelier. Steinbock, amoureux, perdait avec sa femme 5 heures sur 7 à lui décrire sa statue au lieu de la faire. Il mit ainsi 18 mois à terminer cette œuvre, pour lui capitale. Quand le plâtre fut coulé, que le modèle exista, la pauvre Hortense, après avoir assisté aux énormes efforts de son mari, dont la santé souffrit de ces lassitudes qui brisent le corps, les bras et la main des sculpteurs, Hortense trouva l'œuvre admirable. Son père, ignorant en sculpture, la baronne non moins ignorante, crièrent au chef-d'œuvre. Le ministre de la guerre vint alors amené par eux, et séduit par eux, il fut content de ce plâtre isolé, mis dans son jour, et bien présenté devant une toile verte. Hélas, à l'exposition de 1841, le blâme unanime dégénéra dans la bouche des gens irrités d'une idole si promptement élevée sur son piédestal, en huées et en moqueries. Stidmann voulut éclairer son ami Venceslas. Il fut accusé de jalousie. Les articles de journaux furent pour Hortense les cris de l'envie. Stidmann, ce digne garçon, obtint des articles où les critiques furent combattues, où l'on fit observer que les sculpteurs modifiaient tellement leurs œuvres entre le plâtre et le marbre qu'on exposait le marbre. Entre le projet en plâtre et la statue exécutée en marbre, on pouvait, disait Claude Vignon, défigurer un chef-d'œuvre ou faire une grande chose d'une mauvaise. Le plâtre et le manuscrit, le marbre et le livre. En 2 ans et demi, Steinbock fit une statue et un enfant. L'enfant était sublime de beauté, la statue fut détestable. La pendule du prince et la statue payèrent les dettes du jeune ménage. Steinbock avait alors contracté l'habitude d'aller dans le monde, aux spectacles, aux Italiens. Il parlait admirablement sur l'art, il se maintenait, aux yeux des gens du monde, grand artiste par la parole, par ses explications critiques. Il y a des gens de génie à Paris qui passent leur vie à se parler et qui se contentent d'une espèce de gloire de salon. Steinbock, en imitant ses charmants eunuques, contractait une aversion croissante de jour en jour pour le travail. Il apercevait toutes les difficultés de l'œuvre en voulant la commencer, et le découragement qui s'ensuivait faisait mollir chez lui la volonté. L'inspiration, cette folie de la génération intellectuelle, s'enfuyait à tire-d'aile à l'aspect de cet amant malade. La sculpture est comme l'art dramatique, à la fois le plus difficile et le plus facile de tous les arts. Copiez un modèle et l'œuvre est accomplie, mais y imprimer une âme, faire un type en représentant un homme ou une femme, c'est le péché de Prométhée. On compte ce succès dans les annales de la sculpture, comme on compte les poètes dans l'humanité. Michel-Ange, Michel Colombe, Jean Goujon, Phidias, Praxilète, Polyclète, Puget, Canova, Albert Dürer sont les frères de Milton, de Virgile, de Dante, de Shakespeare, du Tasse, d'Homère et de Molière. Cette œuvre est si grandiose qu'une statue suffit à l'immoralité d'un homme, comme celle de Figaro, de Lovelace, de Manon Lescaut, suffirent à immortaliser Beaumarchais, Richardson et l'abbé Prévost. Les gens superficiels, les artistes en comptent beaucoup trop dans leur sein, ont dit que la sculpture existait par le nu seulement, qu'elle était morte avec la Grèce et que le vêtement moderne la rendait impossible. D'abord, les anciens ont fait de sublimes statues entièrement voilées, comme la Polymnie, la Julie, etc. Et nous n'avons pas trouvé la dixième partie de leurs œuvres. Puis que les vrais amants de l'art aillent voir à Florence le penseur de Michel-Ange, et dans la cathédrale de Mayence, la Vierge d'Albert Dürer, qui a fait, en ébène, une femme vivante sous ses triples robes, et la chevelure la plus ondoyante, la plus maniable que jamais femme de chambre ait peignée. Que les ignorants y courent, et tous reconnaîtront que le génie peut imprégner l'habit, l'armure, la robe, d'une pensée, et y mettre un corps, tout aussi bien que l'homme imprime son caractère et les habitudes de sa vie à son enveloppe. La sculpture est la réalisation continuelle du fait qui s'est appelé pour la seule et unique fois dans la peinture, Raphaël. La solution de ce terrible problème ne se trouve que dans un travail constant, soutenu, car les difficultés matérielles doivent être vaincues, la main doit être si châtiée, si prête et obéissante, que le sculpteur puisse lutter âme à âme avec cette insaisissable nature morale qu'il faut transfigurer en la matérialisant. Si Paganini, qui faisait raconter son âme par les cordes de son violon, avait passé 3 jours sans étudier, il aurait perdu, selon son expression, le registre de son instrument. Il désignait ainsi le mariage existant entre le bois, l'archer, les cordes et lui, cet accord dissous. Il serait devenu soudain un violoniste ordinaire. Le travail constant est la loi de l'art comme celle de la vie, car l'art, c'est la création idéalisée. Aussi les grands artistes, les poètes complets, n'attendent-ils ni les commandes ni les chalands. Ils enfantent aujourd'hui, demain, toujours. Il en résulte cette habitude du labeur, cette perpétuelle connaissance des difficultés qui les maintient en concubinage avec la muse, avec ses forces créatrices. Canova vivait dans son atelier, comme Voltaire a vécu dans son cabinet. Homère et Phidias ont dû vivre ainsi. Wenceslas Steinbock était sur la route aride parcourue par ces grands hommes et qui mène aux Alpes de la gloire quand Lisbeth l'avait enchaîné dans sa mansarde. Le bonheur, sous la figure d'Hortense, avait rendu le poète à la paresse, état normal de tous les artistes, car leur paresse, à eux, est occupée. C'est le plaisir des pachas au sérail, ils caressent des idées, ils s'enivrent aux sources de l'intelligence. De grands artistes, tels que Steinbock, dévorés par la rêverie, ont été justement nommés des rêveurs. Ces mangeurs d'opium tombent tous dans la misère. Tandis que, maintenus par l'inflexibilité des circonstances, ils eussent été de grands hommes. Ces demi-artistes sont d'ailleurs charmants. Les hommes les aiment et les enivrent de louanges. Ils paraissent supérieurs aux véritables artistes, taxés de personnalité, de sauvagerie, de rébellion aux lois du monde. Voici pourquoi. Les grands hommes appartiennent à leurs œuvres. Leur détachement de toute chose, leur dévouement au travail, les constitue égoïstes aux yeux des niais, car on les veut vêtus des mêmes habits que le dandy, accomplissant les évolutions sociales, appelées devoirs du monde. On voudrait les lions de l'Atlas peignés et parfumés comme des bichons de marquise. Ces hommes, qui comptent peu de pairs et qui les rencontrent rarement, tombent dans l'exclusivité de la solitude. Ils deviennent inexplicables pour la majorité, composés, comme on le sait, de sots, d'envieux, d'ignorants et de gens superficiels. Comprenez-vous maintenant le rôle d'une femme auprès de ces grandioses exceptions? une femme doit être à la fois ce qu'avait été Lisbeth pendant 5 ans et offrir de plus l'amour, l'amour humble, discret, toujours prêt, toujours souriant. Hortense, éclairée par ses souffrances de mère, pressée par d'affreuses nécessités, s'apercevait trop tard des fautes que son excessif amour lui avait fait involontairement commettre. Mais en digne fille de sa mère, son cœur se brisait à l'idée de tourmenter Venceslas. Elle aimait trop pour se faire le bourreau de son cher poète. Elle voyait arriver le moment où la misère allait l'atteindre, elle, son fils et son mari.
Ah ça, voyons, ma petite, dit Bette, en voyant rouler des larmes dans les beaux yeux de sa petite cousine. Il ne faut pas désespérer. Un verre plein de tes larmes ne payerait pas une assiette de soupe. Que vous faut-il?
Mais 5 à 6 000 francs.
Je n'ai que 3 000 francs au plus, dit Lisbeth. Et que fait en ce moment Venceslas?
On lui propose d'entreprendre pour 6 000 francs de compagnie avec Stidman un dessert pour le duc d'Hérouville. Monsieur Chanor se chargerait alors de payer 4 000 francs dus à messieurs Léon de Laura et Bridau, une dette d'honneur.
Comment? Vous avez reçu le prix de la statue et des bas-reliefs du monument élevé au maréchal Montcornet, et vous n'avez pas payé cela?
Mais, dit Hortense, depuis 3 ans nous dépensons 12 000 francs par an, et j'ai 100 louis de revenus. Le monument du maréchal, tout frais payé, n'a pas donné plus de 16 000 francs. En vérité, si Venceslas ne travaille pas, je ne sais ce que nous allons devenir. Ah, si je pouvais apprendre à faire des statues, comme je remuerais la glaise, dit-elle en tendant ses beaux bras.
On voyait que la femme tenait les promesses de la jeune fille. L'œil d'Hortense étincelait. Il coulait dans ses veines un sang chargé de fer, impétueux. Elle déplorait d'employer son énergie à tenir son enfant.
Ah, ma chère petite Bichette, une fille sage ne doit épouser un artiste qu'au moment où il a sa fortune faite, et non quand elle est à faire.
En ce moment, on entendit le bruit des pas et des voix de Stidman et de Venceslas qui reconduisaient Chanor. Puis bientôt, Venceslas vint avec Stidman. Stidman, artiste lancé dans le monde des journalistes et des illustres actrices, des laurettes célèbres, était un jeune homme élégant que Valérie voulait avoir chez elle, et que Claude Vignon lui avait déjà présenté. Stidman venait de voir finir ses relations avec la fameuse Madame Schontz, mariée depuis quelques mois et partie en province. Valérie et Lisbeth, qui avaient su cette rupture par Claude Vignon, jugèrent nécessaire d'attirer rue Vanneau, l'ami de Venceslas. Comme Stidman, par discrétion, visitait peu les Steinbock, et que Lisbeth n'avait pas été témoin de sa présentation récente par Claude Vignon, elle le voyait pour la première fois. En examinant ce célèbre artiste, elle surprit quelques regards jetés par lui sur Hortense, qui lui firent entrevoir la possibilité de le donner comme consolation à la comtesse Steinbock si Venceslas la trahissait. Stidman pensait en effet que si Venceslas n'était pas son camarade, Hortense, cette jeune et magnifique comtesse, ferait une adorable maîtresse. Mais ce désir, contenu par l'honneur, l'éloignait de cette maison. Lisbeth remarqua cet embarras significatif qui gêne les hommes en présence d'une femme avec laquelle ils se sont interdits de coqueter.
« Il est très bien, ce jeune homme, » dit-elle à l'oreille d'Hortense.
« Ah, tu trouves ? » répondit-elle. « Je ne l'ai jamais remarqué. »«
Stidman, mon brave, » dit Venceslas à l'oreille de son camarade, « nous ne nous gênons point entre nous. Eh bien, nous avons à causer d'affaires avec cette vieille fille. » Stidman salua les deux cousines et partit. « C'est fini, » dit Venceslas en revenant après avoir reconduit Stidman. « Mais ce travail-là demandera 6 mois, et il faut pouvoir vivre pendant tout ce temps-là. »
« J'ai mes diamants !»
s'écria la jeune comtesse Steinbock avec le sublime élan des femmes qui aiment. Une larme vint aux yeux de Venceslas.
« Oh, je vais travailler !»
répondit-il en venant s'asseoir auprès de sa femme qu'il prit sur ses genoux.
Je vais faire des brocantes, une corbeille de mariage, des groupes en bronze.
Mais, mes chers enfants, dit Lisbeth, car vous savez que vous êtes mes héritiers, et que je vous laisserai, croyez-le, un joli magot, surtout si vous m'aidez à épouser le maréchal.
Si nous réussissions promptement, je vous prendrais en pension chez moi, vous et Adeline.
Ah, nous pourrions vivre bien heureux ensemble.
Pour le moment, écoutez ma vieille expérience. Ne recourez pas au monde-piété, c'est la perte de l'emprunteur. J'ai toujours vu les nécessiteux manquant, lors du renouvellement, de l'argent nécessaire au service de l'intérêt, et tout est perdu. Je puis vous faire prêter de l'argent à 5% seulement sur billets.
« Ah, nous serions sauvés !» dit Hortense.
« Eh bien, ma petite, que Wenceslas vienne chez la personne qui l'obligerait à ma prière. C'est Madame Marneffe. En la flattant, car elle est vaniteuse comme une parvenue, elle vous tirera d'embarras de la façon la plus obligeante. Viens dans cette maison-là, ma chère Hortense. »
Hortense regarda Wenceslas de l'air que doivent avoir les condamnés à mort en montant à l'échafaud.
Claude Vignon a présenté la Steedman, répondit Wenceslas. C'est une maison très agréable.
Hortense baissa la tête. Ce qu'elle éprouvait, un seul mot peut le faire comprendre. Ce n'est pas une douleur, mais une maladie.
Mais ma chère Hortense, apprends donc la vie, s'écria Lisbeth en comprenant l'éloquence du mouvement d'Hortense. Sinon, tu seras comme ta mère. Déportée dans une chambre déserte où tu pleureras comme Calypso le départ d'Ulysse, à un âge où il n'y a plus de Télémaque,
ajouta-t-elle en répétant une raillerie de Madame Marneffe.
Il faut considérer les gens dans le monde comme des ustensiles dont on se sert, qu'on prend, qu'on laisse selon leur utilité. Servez-vous, mes chers enfants, de Madame Marneffe et quittez-la plus tard. As-tu peur que Wenceslas, qui t'adore, se prennent de passion pour une femme de 4 ou 5 ans plus âgée que toi, fanée comme une botte de luzerne et...
« J'aime mieux mettre mes diamants en gage, » dit Hortense. « Oh, ne va jamais là, Wenceslas, c'est l'enfer. »
« Hortense a raison, » dit Wenceslas en embrassant sa femme.
« Merci, mon ami, » répondit la jeune femme au comble du bonheur. « Vois-tu, Lisbeth, mon mari est un ange, il ne joue pas. » Nous allons partout ensemble, et s'il pouvait se mettre au travail, non, je serais trop heureuse. Pourquoi nous montrer chez la maîtresse de notre père, chez une femme qui le ruine, et qui cause les chagrins dont se meurt notre héroïque maman?
Mon enfant, la ruine de ton père ne vient pas de là, c'est sa cantatrice qui l'a ruinée, puis ton mariage, répondit la cousine bête. Mon Dieu! Madame Marneffe lui est bien utile, va, mais je ne dois rien dire.
Tu défends tout le monde, chère bête.
Hortense fut appelée au jardin par les cris de son enfant, et Lisbeth resta seule avec Wenceslas.
Vous avez un ange pour femme, Wenceslas, dit la cousine bête. Aimez-la bien, ne lui faites jamais de chagrin.
Oui, je l'aime tant que je lui cache notre situation, répondit Wenceslas. « Mais à vous, Lisbeth, je puis vous en parler. Eh bien, en mettant les diamants de ma femme au monde-piété, nous ne serions pas plus avancés. »«
Eh bien, empruntez à Madame Marneffe, » dit Lisbeth. « Décidez Hortense, Wenceslas, à vous y laisser venir. Ou, ma foi, allez-y sans qu'elle s'en doute. »«
C'est à quoi je pensais, » répondit Wenceslas, « au moment où je refusais d'y aller pour ne pas affliger Hortense. »
« Écoutez, Wenceslas, je vous aime trop tous les deux pour ne pas vous prévenir du danger. Si vous venez là, tenez votre cœur à deux mains, car cette femme est un démon. Tout ce qui la voit l'adore. Elle est si vicieuse, si affriolante. Elle fascine comme un chef-d'œuvre. Empruntez-lui son argent et ne laissez pas votre âme en gage. Je ne me consolerai pas si ma cousine devait être trahie.
« La voici !» s'écria Lisbeth. « Ne disons plus rien, j'arrangerai votre affaire. »« Embrasse Lisbeth, mon ange, » dit Wenceslas à sa femme. « Elle nous tirera d'embarras en nous prêtant ses économies. »
Et il fit un signe à Lisbeth
que Lisbeth comprit. « J'espère alors que tu travailleras, mon chérubin, » dit Hortense.
« Ah !» répondit l'artiste. « Dès demain. »
« C'est ce demain qui nous ruine, » dit Hortense en lui souriant.
« Ah, ma chère enfant, dis-toi-même si chaque jour il ne s'est pas rencontré des empêchements, des obstacles, des affaires. »
« Oui, tu as raison, mon amour. »«
J'ai là, » reprit Steinbock en se frappant le front, « des idées. Oh, mais je veux étonner tous mes ennemis. Je veux faire un service de table dans le genre allemand du XVIe siècle, le genre rêveur. Je tortillerai des feuilles pleines d'insectes, j'y coucherai des enfants, j'y mêlerai des chimères nouvelles, de vraies chimères, les corps de nos rêves. Je les tiens. Ce sera fouillé, léger et touffu tout à la fois. Chanor est sorti tout émerveillé. J'avais besoin d'être encouragé, car le dernier article fait sur le monument de Montcornet m'avait bien effondré. Pendant un moment de la journée où Lisbeth et Wenceslas furent seuls, l'artiste convint avec la vieille fille de venir le lendemain voir Madame Marneffe, car où sa femme le lui aurait permis, où il irait secrètement. Valérie, instruite le soir même de ce triomphe, exigea du baron Hulot qu'il allât inviter à dîner Stidmann, Claude Vignon et Steinbock, car elle commençait à le tyranniser comme ces sortes de femmes savent tyranniser les vieillards qui trottent par la ville et vont supplier quiconque est nécessaire aux intérêts, aux vanités de ces dures maîtresses.